Donc dans ce texte d'une extrême complexité de la guérison de l'aveugle-né, en Jean 9, il y a un miracle, il y a une guérison. En fait, Jésus permet à un homme de dépasser un mal qui l'accablait. Et c'est à partir de là que je voudrais, pour aujourd'hui, essayer d'entrer dans ce texte. Il y aurait bien d'autres portes d'entrée, mais prenons celle-là et mettons-nous à la place de l'aveugle. Que représente ce mal? Je ne veux pas trop le préciser, en fait, parce que je crois que c'est à chacun de le dire. Chacun a ses propres difficultés, ses propres problèmes, chacun a ses propres handicaps, chacun a ses propres épreuves, ses propres poids à porter, ses deuils ou des difficultés qui lui pèsent. Chacun a des choses qui le bloquent, qui l'empêchent de vivre libre et heureux. Chacun a des choses qui l'immobilisent et qui le rendent en quelque sorte mendiant et immobile dans ce monde. Alors que nous avons le désir d'être libres et autonomes et heureux dans ce même monde. Et donc ce que nous voyons, c'est que Jésus va l'aider à se débarrasser de cet obstacle, de ce handicap qui le bloquait. Et ça, c'est intéressant de voir quelle est la méthode que Jésus va utiliser, parce que c'est également la même méthode qui peut être utilisée pour nous, bien sûr, chacun pouvant, je vous le disais, ainsi entrer dans ce texte avec sa propre histoire. La première chose, je crois, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Ça, pour dire ça, je lis le texte à partir de la fin. En effet, vous avez vu qu'à la fin, les pharisiens eux-mêmes disent à Jésus « Mais donc, nous aussi, nous sommes aveugles. » Autrement dit, ils reconnaissent que la question n'est pas tellement la guérison médicale de ce cas-là particulier, mais que, dans le fond, nous sommes tous plus ou moins aveugles parce que nous avons tous des problèmes. Et Jésus leur dit « Votre péché, ce n'est pas tellement que vous soyez aveugles, mais que vous prétendiez voir. » Et donc, ce qu'il montre, c'est que le problème véritable, ce n'est pas d'avoir des problèmes, c'est de les nier. Et que la première chose, c'est de reconnaître avec humilité et avec simplicité les points de blocage de notre existence, quels qu'ils soient. Et donc, oui, je pense que la première chose, c'est d'assumer ses faiblesses et de savoir quels sont nos points faibles, quelles sont nos failles, en se disant que c'est là que le Christ peut agir. Parce que tant qu'on colmate, eh bien, il n'y a aucune prise pour l'action du Christ. Je pense en effet que Jésus ne peut rien faire sur les zones de notre existence où nous sommes contents de nous. Donc s'il y a des zones où nous sommes contents de nous, tant mieux pour nous. Mais ce n'est pas là que le Christ ou que Dieu pourra faire quoi que ce soit. Ce qui est vrai, c'est que sur ces zones où nous sommes trop contents de nous, la seule chose qui puisse nous arriver, c'est que la vie elle-même nous impose ce qu'on appelle des blessures narcissiques, c'est-à-dire des problèmes qui viennent nous montrer que nous ne sommes peut-être pas si autonomes et si parfaits que ça, et que donc nous avons besoin que quelqu'un nous aide. Et ça, c'est ce que dit Jésus encore à la fin quand il dit « Je suis venu pour un jugement afin que ceux qui ne voient pas voient ». Et donc certes, le Christ est là pour aider ceux qui ont des problèmes et il va les aider à se reconstruire, à se régénérer, comme il le fera avec l'aveugle. Et plus mystérieux, il dit aussi « Et afin que ceux qui voient deviennent aveugles ». Ça, c'est plus mystérieux, parce qu'on n'imagine pas que Jésus puisse être source de mal. Et en fait, je le comprends de la façon suivante, où une fois un de mes collègues pasteurs a dit à quelqu'un qui lui demandait de l'aide, il a dit « Vous savez, madame, je ne suis pas tellement là pour guérir les malades, mais plutôt pour rendre un peu malades les gens trop bien portants. » C'était sans doute exagéré, mais il y a sans doute quelque chose d'un peu juste aussi là-dedans, c'est que la seule véritable erreur, le seul péché, comme dit Jésus, c'est de se croire parfait quand on ne l'est pas. Être faible et imparfait n'est pas un péché. Le péché, c'est de se mentir à soi-même. Et donc, dès que l'on est clairvoyant, et juste sur soi-même, dès qu'on assume sa faiblesse et qu'on en demande avec simplicité pardon à Dieu et qu'on demande son aide, on est dans une dynamique positive qui peut permettre toutes sortes de bienfaits. Le deuxième point de la méthode de Jésus pour guérir l'aveugle, c'est cette discussion qu'il y a au début où il nous invite à travailler sur les causes et les conséquences du mal. Vous savez, les disciples disent, est-ce lui ou ses parents qui auraient péché pour qu'il soit né aveugle ? Et Jésus dit, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas que qui que ce soit ait péché, mais dit-il, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alors on pourrait croire que Dieu ferait exprès de faire des choses mal faites pour ensuite dire, vous voyez, c'est formidable, je guéris le mal que j'ai fait. C'est évidemment absurde. Je ne crois pas que Dieu fasse quoi que ce soit de mal, en tout cas pas pour essayer de briller par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous pousse à comprendre le sens du mal. En effet, quand il y a du mal qui nous arrive, automatiquement, nous essayons de comprendre pourquoi. Et nous disons, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive cela ? Est-ce que c'est de ma faute ? Suis-je coupable ? Alors Jésus dit, arrêtez. Arrêtez de vous demander d'où ça vient. Si vous êtes coupable, si vous n'êtes pas coupable, si c'est de votre faute ou de celle de vos parents, de vos arrière-grands-parents, ou de celle d'Adam et Ève avec le péché originel, oubliez tout ça. Arrêtez de vous tourner vers l'arrière, tournez-vous vers l'avant. Et dites-vous que le mal que vous observez, eh bien c'est un terrain d'action idéal pour l'action de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est là qu'il peut se passer des choses extraordinaires. Puisque je vous l'ai dit, les points sur lesquels vous excellez, bah, il ne va rien se passer d'extraordinaire, vous êtes déjà très bien, ça va, restez comme ça, ne changez rien. Là où il peut se passer des choses dans votre vie, c'est les lieux où vous vous dites, là il y a un manque, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là qu'il peut y avoir un miracle dans votre vie. C'est là qu'il peut y avoir une bonne nouvelle. Et en effet, je crois que c'est intéressant justement d'inviter d'abord à se libérer de la culpabilité qui ne mène à rien. Alors certes, bon, si vous avez fait une bêtise dont vous êtes responsable, évitez de répéter les mêmes erreurs indéfiniment, bon, d'accord. Mais là, le pauvre homme, il est né aveugle, on ne peut pas dire qu'il y soit pour grand-chose. En tout cas, le mal qui vous arrive, je ne crois pas que la solution soit à chercher dans la culpabilité, ni même dans le passé. Le mal, comme dit Jésus, c'est là où l'action de Dieu doit se manifester. C'est-à-dire, il faut interpréter le mal non pas par rapport au passé, mais par rapport à ce que je peux en faire. Et je pense que le mal qu'il y a dans notre vie, ce sont justement des opportunités de faire quelque chose de ce mal pour le transformer en bien. C'est là où il y a un lieu d'action. Et il y a d'ailleurs une chose intéressante, si vous lisez le texte de près, vous verrez que les bonnes traductions disent « Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions dans ces lieux-là l'action de Dieu ». C'est-à-dire qu'au lieu de dire « il faut que j'agisse pour faire ce que Dieu attend de moi », il met un « nous » au pluriel qui nous implique dans la démarche. Et donc ce n'est pas juste d'attendre que Dieu fasse quelque chose pour nous, c'est de rentrer dans une œuvre avec lui pour faire quelque chose. Mais ça va plus loin que ça. Je pense que cette réflexion sur le sens du mal est absolument essentielle parce que le problème du mal, justement, qui nous arrive, c'est d'essayer de comprendre. On ne peut pas échapper à ça. Et on essaye de comprendre pour savoir quel sens ça a. Jésus dit donc qu'il ne faut pas le comprendre par rapport au passé. Et je pense qu'il a raison, parce que j'ai eu une formation philosophique aristotélicienne et thomiste. Et Thomas d'Aquin, très justement, explique que le mal n'a pas de cause fondamentale, si ce n'est par accident. C'est-à-dire que ce que dit Thomas en français courant, c'est que le mal, c'est du non-sens et c'est du désordre. C'est-à-dire que le mal, par définition, est sans ordre, c'est de l'absurde, si vous voulez. Pourquoi un accident à tel endroit, pourquoi une maladie à tel autre, pourquoi un tel attrape-t-il une tumeur tel jour et pas son voisin? Il n'y a aucune raison. C'est l'absurde. Et nous sommes frappés, je crois, par cela quand il y a du mal en nous de dire « mais pourquoi ?» Eh bien, il n'y a pas de pourquoi. Et en tout cas, la réponse au problème du mal n'est pas dans le pourquoi, mais dans le pourquoi. C'est-à-dire, maintenant que c'est là, qu'est-ce que je vais en faire? Autrement dit, le sens de ce qui nous arrive, on ne peut pas le trouver dans le passé, dans les causes, mais le sens de ce qui nous arrive, nous pouvons lui donner en fonction de ce que nous allons en faire. Et il est vrai que nos handicaps peuvent devenir des chances ou des tremplins ou des avantages dans certaines circonstances, certaines situations qu'il nous appartient de trouver. Le mal, dit Thomas d'Aquin, le mal a des causes efficientes et matérielles, c'est-à-dire qu'on peut dire, oui, un tel est mort parce qu'il est tombé de son échelle, parce que l'échelle tenait mal, parce que, mais ensuite, il dit, le mal n'a pas de cause formelle ou finale, c'est-à-dire que le mal en lui-même n'est orienté vers rien. Et c'est ça, le mal, c'est de l'absurde pur. On arrive à un mur d'absurdité, quelles que soient les causes, d'un sens qui nous échappe. Il n'est pas orienté, il n'a pas de plan. Je crois que c'est une chance pour nous, parce que si le mal commençait à s'organiser, alors là, ce serait beaucoup plus difficile de s'en défaire. Parce que s'il y avait une puissance du mal aussi astucieuse que Dieu, capable de calculer, d'organiser, d'orienter le mal qui nous arrive, ce serait désespérant. Mais justement, le mal, il est malfaisant, certes, mais il est tellement désordonné que ça nous laisse toute chance de pouvoir nous organiser pour lutter contre lui. Et ça, le seul moyen, eh bien, c'est justement de donner du sens à ce qui n'en a pas. Et ça dépend de nous. Et ça tombe bien, c'est la spécialité de Dieu, et la spécialité de l'Évangile et du Christ. Le Christ, c'est ça, c'est le roi du sens. Et il dit, à ce qui n'a pas de sens, moi, je peux donner du sens. Je peux organiser quelque chose, lui donner, en l'intégrant dans un système plus vaste, qui tout à coup fasse en sorte que ce qui semblait absurde devient au contraire quelque chose qui est sensé. C'est ce que fera Dieu sans arrêt dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. C'est ce qu'il fait à l'égard de la mort du Christ. La croix du Christ, je dirais, cette absurdité, vraiment l'humanité qui, pour des questions de jalousie, de politique, de je ne sais quoi, crucifie le Fils de Dieu. Attendez, c'est l'absurde total. Et Dieu arrive à réorganiser ça. Il se dit, je m'en fiche, ce n'est pas la question de savoir pourquoi les pharisiens ont tué Jésus. On s'en fiche. Mais maintenant que c'est ça, on va donner du sens à cette mort. Et cette mort donne aujourd'hui du sens à notre vie. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et donc le mal, c'est justement le lieu préférentiel de l'action créatrice de Dieu pour transformer ce mal en bien avec l'aide de Dieu. Et du coup, il y a là une conception très, très nouvelle, je dirais, du mal dans le monde, qui s'oppose à toutes les religions païennes, qui en gros disent que le mal, c'est soit, je dirais, c'est du bien corrompu, c'est-à-dire que c'est du bien qui a été abîmé, soit par l'homme, parce qu'il est pécheur et coupable, soit par Dieu qui volontairement dégrade les choses, j'en sais rien. Et Jésus dit non, c'est pas ça. Il y a du mal. Et le mal, c'est ce qui n'a pas encore été organisé par Dieu, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle une théologie de la création continuée, montrant que le problème du mal, c'est que le mal, par définition, c'est ce qui a encore échappé à la puissance créatrice de Dieu, et que Dieu est actuellement à l'œuvre, et que le monde a besoin qu'on travaille pour réduire le mal. C'est-à-dire qu'on doit travailler avec Dieu, d'où l'importance de ce « nous » que j'ai évoqué tout à l'heure, pour essayer de réduire le mal et de le faire reculer pour contribuer à l'action créatrice de Dieu. Continuons. Comment Jésus va-t-il s'y prendre donc pour aider cet aveugle avec sa cécité. Là, il a une méthode très particulière qui fait intervenir trois éléments, qui est, vous savez, de la salive, de la terre et d'aller se laver au réservoir de Siloé. Que quelqu'un guérisse un aveugle avec de la salive, j'ai longtemps essayé de comprendre ce que cela voulait dire, jusqu'à ce qu'un médecin colonial me dise « Alors là, ça n'a rien d'extraordinaire, monsieur le pasteur, j'ai été moi-même médecin dans des pays secs, arides, et je sais que quand quelqu'un ne boit pas assez, en se desséchant, en se déshydratant, il peut y avoir une croûte salée qui se forme sur l'œil, qui fait que la personne ne voit plus rien. » Et on nous apprend qu'il faut dissoudre cette croûte salée avec de la salive et que la personne revoit tout à fait naturellement. Bon, j'étais déçu en me disant que je pensais que Jésus avait fait quelque chose de formidable et qu'apparemment ce n'était qu'un petit truc de médecin colonial, ce qui ne mérite pas d'en faire une religion. Mais par-delà cela, j'ai compris que la salive, c'est évidemment la parole. C'est ce que j'use à vous parler, autrement dit. Dans les évangiles synoptiques, Jésus guérit un aveugle qui là n'est pas né d'ailleurs, ce qui est plus crédible. On peut penser que Jean a un peu arrangé l'affaire en disant que c'était un aveugle né, enfin peu importe. Dans les synoptiques, Jésus guérit l'aveugle seulement avec de la salive qu'il met sur les yeux. Et si la salive représente la parole de Dieu, je me dis que c'est peut-être ça qui peut nous permettre déjà d'avancer, c'est de regarder le monde à travers la parole de Dieu, à travers le filtre de la parole de Dieu. Vous savez, les gens qui sont déprimés, on leur dit « mettez des lunettes roses ». Bon, la recette est très limitée. Je pense qu'on peut apprendre à regarder le monde à travers la parole de Dieu, c'est-à-dire avoir sur le monde une parole de grâce, c'est-à-dire de tranquillité, d'accueil, de simplicité, plutôt que de toujours vouloir lutter, rejeter, culpabiliser, condamner, une parole de grâce. Et même, je pense que la parole de Dieu doit être sans arrêt devant nos yeux. C'est pourquoi il faut s'y frotter tous les jours, je dirais, pour que notre vie et ce que nous vivons chaque jour soient lus au filtre de cette parole de Dieu qui est une parole créatrice. Donc oui, lire les choses à travers la parole de Dieu nous fait voir le monde autrement. Et la seule chose qui compte dans notre vie, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la façon avec laquelle nous les vivons et la façon avec laquelle nous les intégrons en nous-mêmes. Et donc cette parole de Dieu doit être notre compagnon quotidien, permanent, notre référence quotidienne pour que elle s'interpénètre, je dirais, avec ce que nous expérimentons chaque jour et que chaque jour, il y ait tous ces événements de notre vie qui nous agressent ou nous font du bien et qu'il y ait aussi cet apport de la parole par notre lecture quotidienne de l'Écriture qui fait en sorte que ces événements sont sans arrêt relus et mélangés comme une grande soupe, je dirais, avec ces ingrédients positifs de la parole et ça change tout. Donc oui, effectivement, lire à travers la parole de Dieu, c'est intéressant. Là, dans Jean, la recette est plus compliquée parce qu'on nous dit que cette salive, il la mélange avec de la terre. Il crache par terre, il fait de la boue qu'il pose sur les yeux. Les pères de l'Église, évidemment, dès qu'il s'est agi de terre, on dit « Oh là là, ça je comprends puisque c'est comme ça que Dieu a créé l'homme ». Avec de la terre, vous savez, qu'il a pris du sol et il a façonné Adam, le terreux. Et donc, Jésus agit là comme un recréateur. C'est-à-dire qu'on reprend les éléments de base et on va créer quelque chose de neuf. Ça me semble intéressant. Je pense que notre problème à nous, c'est que nous voudrions toujours revenir à l'état précédent. Et donc, on essaye de trouver des bricolages pour faire comme si le mal n'avait pas été là. Ça, c'est le péché, voilà. Et Jésus ne fait pas ça, il dit, on va prendre là où on est et on va recréer autre chose. C'est-à-dire qu'on recommence pour recréer un être nouveau. Donc quelqu'un qui vit un deuil ou qui vit une épreuve ou une maladie physique ne doit pas se dire, il faut que j'arrive à vivre comme je vivais avant, il faut qu'il comprenne qu'il peut être quelqu'un d'autre et qu'avec l'aide de Dieu, il peut se recréer autrement. De toute façon, il n'y a pas de choix. C'est le seul moyen de revivre. Et le Christ peut justement nous aider à nous recréer autrement. Ce n'est pas très simple. Et d'ailleurs, l'aveugle, bon, il ne voit rien, il est paumé, il est perdu, voilà, il n'y arrive pas. Jésus commence par, pour le recréer, par lui mettre de la boue sur les yeux. A priori, il doit se dire, ça ne va pas m'arranger mon affaire. Parce que si on voit déjà un peu, ce n'est pas en mettant de la boue sur les yeux que vous verrez mieux. Et donc, peut-être qu'effectivement, dans un premier temps, cette action de Dieu ne semble pas nous aider. Mais ensuite, il y a une démarche dans le temps, une certaine patience qui fait que, eh bien, en prenant nous-mêmes et en assumant cette parole qui nous a été donnée, qui peut-être est un poids, semble être un poids au départ, en la prenant pour nous-mêmes, en l'acceptant, c'est ce que fait l'aveugle, où il va aller lui-même vers Siloé, en le prenant pour soi-même, en l'acceptant avec simplicité, et en retournant dans le monde avec sa double charge presque, eh bien, finalement, on arrive à être libéré de tout cela. Et puis, peut-être aussi que ce mélange de la salive et de la terre, on peut le comprendre autrement, en disant que la salive, bon, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est l'idéal spirituel. La terre, ben la terre, c'est la terre, c'est le terrestre, c'est le matériel. Et là, ça me plaît beaucoup ce que dit Jean, pour dire peut-être que la solution dans notre existence, c'est d'arriver à faire un mélange entre de l'élévation spirituelle et du bon sens terrestre. Voilà, et donc j'y vois, moi, l'intervention du bon sens, en quelque sorte. C'est-à-dire que parfois les prédications sont un peu idéalistes, en disant « avec les deux dieux, vous y arriverez, la solution », ou le but, c'est pas non plus d'aller se sortir du monde pour planer dans des alléluia célestes, mais de dire « la solution de notre vie, elle est lorsque l'on arrive à mélanger ensemble une sorte de bon sens paysan, terrestre, les pieds sur terre, avec cette parole de Dieu qui est une parole infiniment spirituelle et créatrice. » C'est d'ailleurs l'image même de Jésus-Christ, Jésus qui est, on dit, l'homme uni à Dieu, Jésus qui est l'image de la nouvelle création, ou justement qui arrive à faire la synthèse entre la vie humaine, totalement humaine, dans toutes ses limitations, et la présence de Dieu. Et c'est toujours ce que nous devons faire, d'arriver à tomber ni du côté du matérialisme, ni du côté du spiritualisme pur, mais d'arriver à mélanger les deux, de façon à ce que les deux puissent s'interpénétrer et faire quelque chose qui soit à la fois spirituel et de bon sens. Eh bien, c'est certainement ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, le troisième élément, vous disais-je, c'est Jésus qui lui dit « va te laver à la piscine de Siloé ». Ça aussi, c'est curieux parce que je ne vois pas très bien pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il le fasse. Jésus, s'il voulait le guérir, aurait pu le faire comme ça. On pense en général que cela veut dire que l'individu doit quand même faire quelque chose de lui-même. C'est-à-dire que tant qu'il est dans la passivité de dire « allez Seigneur, aide-moi, j'y arrive pas », ça ne marchera pas. Mais il y a la nécessité d'une synergie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avancer avec nous-mêmes, et nous devons prendre à un moment donné notre vie en main. Et donc on n'est pas là qu'à recevoir ou à nous lamenter, mais à un moment donné, il faut prendre part à la démarche de la thérapie, en quelque sorte. Nous devons, pour nous en sortir, ne pas tout attendre de Dieu, sûrement, mais se prendre en main soi-même et faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle en théologie la synergie, c'est-à-dire de se mettre en marche avec Dieu, avec quelqu'un d'autre. On est au total opposé de la fable de La Fontaine « Aide-toi et le ciel t'aidera », puisque vous remarquerez que là, le ciel a aidé d'abord. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « Va à la piscine de Siloé et si tu y vas, je te guérirai ». Jésus lui donne d'abord tout, et pour que ça puisse se mettre en œuvre en lui, il doit ensuite, lui, continuer le mouvement en quelque sorte. On peut dire aussi que Jésus est finalement un très bon pédagogue parce qu'il essaye de l'autonomiser, justement. et de lui dire « Tu peux y arriver, tu peux marcher, tu peux avancer, tu peux te mettre debout, tu peux être le sujet de ta vie. » Alors qu'avant, il était aveugle et mendiant, il disait « Donnez-moi, je ne peux pas rien faire, je dépends des autres. Mets-toi debout, avance, tu vas y arriver, va vers la piscine. » Il aurait pu lui dire d'aller n'importe où, peu importe. Jésus l'autonomise et surtout ne le rend pas dépendant, même de la dimension spirituelle, ni de son Église, ni de la communauté, ni de la théologie, ni de lui. Et je pense que le juste rapport à la religion ne doit pas être pour nous dans l'obsession, et que c'est bien de penser à Dieu de temps en temps et de prier Dieu quand il faut et au Christ au bon moment, mais qu'il y a aussi des moments où nous devons prendre notre vie nous-mêmes et avancer comme des grandes personnes. Voilà. Et donc il le rend adulte, si vous voulez. Ça, c'est extraordinaire. Il lui donne l'autonomie et il lui demande surtout de se mettre en marche, c'est-à-dire d'avancer. Va quelque part, je ne sais pas où, moi, à Siloé, il est aveugle, il va peut-être se perdre en route, peu importe, mais va quelque part, avance. Et donc il est sauvé par grâce, mais ça ne l'empêche pas d'avoir à participer, et ce n'est qu'après qu'il sera guéri. Et puis, on peut, et le texte nous invite à le faire, le voir aussi autrement, parce que on nous dit Siloé, ça veut dire l'envoyé. En hébreu, c'est vrai, chaloar, ça veut dire celui qui est envoyé. Et si le texte prend la peine de nous le dire, c'est bien pour qu'on comprenne qu'il y a là une petite signification à rajouter. Les pères de l'Église disaient, donc ça veut dire que, en fait, faut qu'il passe, l'envoyé c'est le Christ, qui est l'envoyé de Dieu, et donc il faut qu'il aille se plonger dans la piscine de l'envoyé, c'est-à-dire qu'il reçoive le baptême. Bon, ça ne me convient pas trop, je ne vois pas trop bien ça comme ça, mais je pense que l'envoyé n'est pas nécessairement Jésus lui-même, peut-être que c'est lui qui est appelé à être envoyé. Autrement dit, il lui dit peut-être que pour être guéri, il faut que tu passes par l'étape envoyé, c'est-à-dire que tu te considères toi-même comme un envoyé en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il le fasse sortir de son égoïsme. Et voilà, c'est ça en fait, un des secrets de l'affaire. C'est-à-dire que tu te considères comme toi-même en ayant un rôle par rapport aux autres et pour faire quelque chose aux autres. Au lieu de te lamenter sur toi-même, demande-toi en quoi tu peux te considérer comme envoyé par rapport aux autres. Et ça, ça va être absolument essentiel parce que c'est ce qui va se passer après. Où il va y avoir toutes ces discussions avec les pharisiens, et il faudrait que je prenne le temps dans une autre prédication de revenir sur cette démarche particulière de l'aveugle qui va finalement se convertir, où il va passer par différentes étapes. Au début, il va simplement parler de Jésus en disant « un homme, Jésus, je ne sais pas d'où il est, m'a guéri ». Et puis ensuite, en discutant avec les adversaires, il finira par dire « Moi, je crois que c'est un prophète. » Déjà mieux. Et puis un peu plus loin, il va dire « C'est un envoyé de Dieu. » Encore mieux. Et finalement, à la fin du texte, il dira « Je crois Seigneur et qu'il est le Fils de l'homme. » Et on va donc voir que, par-delà ce problème particulier qui a été le sien, il va y avoir en lui tout un travail de conversion qui va s'opérer pour faire en sorte que cette personne qui au départ était totalement écrasée par ce que lui arrivait devient un témoin, un apôtre, un envoyé et une lumière dans ce monde. Parce que en effet, nous sommes invités à agir tant que la lumière est présente, invités à agir tant que le Christ est là, mais le Christ est présent à nos côtés et nous sommes invités, nous aussi, à agir avec le Christ et à devenir nous-mêmes lumière du monde. Et c'est ça peut-être le secret. C'est que Jésus nous guérit, certes, j'allais dire pour nos beaux yeux, ce qui est bien pour un aveugle, mais qui nous guérit aussi pour que nous-mêmes devenions lumière du monde. Et il y a donc, vous voyez, dans ce récit, beaucoup plus que le récit de la guérison d'une infirmité particulière, c'est le récit de la transformation d'une vie. Et ce récit, c'est le récit de notre propre transformation et qui nous doit nous inviter à avoir confiance dans la présence du Christ, puisque finalement, c'est une rencontre qui va sauver cet homme. Les pharisiens disent, c'est pas possible, ça aurait pas dû être le sabbat et c'est pas le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Le moment, c'est quand on est soi-même dans cette rencontre avec le Christ. Et quand il est là, c'est le moment d'agir. Il n'y a pas non plus de règles de religion qui va nous imposer telle ou telle pratique. C'est simplement la disponibilité à l'égard de celui que nous sommes invités à rencontrer, qui est le Christ et qui est la lumière du monde, afin que nous devenions nous-mêmes lumière pour le monde. Amen.